La semaine de l'art.
Le magazine radio de la Tribune de l'Art.
Bonjour et bienvenue dans cette 32e émission de la Semaine de l'Art, donc avec une nouvelle formule que nous avons inaugurée la semaine dernière, une interview, un débat avec notre invité qui ne sera pas coupé par des rubriques. Vous retrouverez par ailleurs les rubriques brèves et revues de presse que j'enregistrerai et qui sera disponible dans demain ou après-demain. Notre invité aujourd'hui donc est Philippe Toussaint, président des Vieilles Maisons Françaises, une très honorable et très connue association de protection du patrimoine qui fait partie du G8, donc c'est une des grandes associations nationales, et qui va nous parler à la fois de son parcours, des VMF, de la fondation VMF, de la défense du patrimoine, un combat qui, comme vous le savez, nous tient à cœur. Bonjour Philippe Toussaint.
Bonjour Didier.
Donc, parlez-nous d'abord de votre parcours. Comment êtes-vous arrivé à la présidence de cette association? Comment vous êtes-vous intéressé au patrimoine? D'où venez-vous?
Écoutez, ce qu'on peut dire, c'est qu'au fond, j'ai très jeune. Je suis né en Seine-et-Marne. Et je me souviens, enfant, quand j'avais ma première mobilette, je me suis baladé à travers tout le département parce que j'étais passionné par l'histoire, de manière générale, et puis plus particulièrement parce que le patrimoine représentait finalement les témoins d'une histoire qui était passionnante. Voilà, donc c'est quand même pour moi quelque chose de très ancien. Mais ensuite, pourquoi est-ce que je me suis tout d'un coup retrouvé président des Vieilles Maisons Françaises? Ben, c'est une histoire en plusieurs étapes. Il se trouve que j'ai eu une vie dans la finance, et qu'un beau jour, le trésorier des Vieilles Maisons Françaises m'a demandé d'organiser un dispositif pour la gestion de trésorerie de ces Vieilles Maisons Françaises. Donc, c'était un peu rien à voir avec le patrimoine en tant que tel, si ce n'est le patrimoine des délégations des VMF. Et donc, je suis rentré comme ça au conseil d'administration des VMF. Et puis, l'autre partie de ma vie, c'est la musique. Je suis passionné par la musique. J'ai créé un festival il y a plus de 30 ans dans le département de l'Orne, ça s'appelle le Septembre musical de l'Orne. Je préside aujourd'hui la Fédération française des festivals de musique. Et la personne qui m'a accueilli dans ce département, quand j'ai créé mon festival, et qui m'a suggéré de mettre le siège de cette association de festival chez elle, le Château d'Eau, un lieu très célèbre, c'était Yolande de la Crotelle, l'épouse de l'académicien Jacques de la Crotelle, et qui était la présidente de l'époque des Vieilles Maisons Françaises. Donc c'est tout à fait, par accident, on peut dire à chaque fois, que je me suis retrouvé de diverses manières lié à cette association. Et un beau jour, mon prédécesseur, Georges de Grandmaison, ayant une santé très déclinante, il m'a été demandé de prendre le relais. Et après avoir beaucoup hésité, parce que c'est une charge assez lourde, finalement, je me suis jeté à l'eau. Et voilà maintenant un peu plus de 10 ans que j'assume cette fonction de présidence des Vieilles Maisons Françaises.
Et vous êtes, Louisa, à peu près, disons, une dizaine d'années.
Voilà, exactement.
Alors, parlez-nous de cette association qu'on a parfois tendance à assimiler avec une association de personnes qui vendent des propriétés des Vieilles Maisons Françaises. Mais en fait, c'est une association de défense du patrimoine de manière très, très globale et très générale.
Les VMF est une association qui a été créée en 1958 par Anne de Amodio. Et Anne de Amodio, qui était elle-même issue d'une très ancienne famille française, la Rochefoucauld, et elle s'est rendue compte à l'époque que si le patrimoine restait en quelque sorte l'affaire des seuls propriétaires de maisons qui étaient en l'espèce protégées, eh bien celui-ci risquait d'être très tôt condamné. Et donc elle s'est dit, il faut que ce soit vraiment l'affaire de tous, et donc elle a créé cette association avec l'idée précisément d'une ouverture et d'y rassembler les passionnés du patrimoine. Et donc vraiment c'est la spécificité des Vieilles Maisons Françaises. Et alors ensuite, l'association qui a été créée en fait dans le département de la Charente, où se trouvait le château de cette famille de la Rochefoucauld qui s'appelle le château de Verteuil, eh bien à partir de la Charente, donc ça s'est développé dans toute la France, et au fond c'est une association qui est d'abord le rassemblement d'un certain nombre d'adhérents au sein de délégations départementales. Il y a donc pas loin de 20 000 adhérents à peu près aujourd'hui, et c'est donc une structure qui est très forte, très terrain, avec une activité au niveau du terrain, qui est une activité de découverte du patrimoine, car on n'imagine pas à quel point on ne connaît pas le patrimoine, même à sa porte, tellement il y a de choses et de choses méconnues. Donc, c'est une activité incessante de découverte qui est menée par ces délégués, et ça a l'air accessoire, mais la connaissance est quand même un élément clé pour la défense. Si on ne connaît pas, comment voulez-vous que l'on défende ? Donc, cette activité est très forte. Et puis, nous avons par ailleurs une activité de lobbying au niveau national, mais au niveau d'ailleurs local, les deux se combinant, et qui est importante également, car la défense du patrimoine n'existerait pas s'il n'y avait pas des associations. Il faut bien voir que les pierres sont silencieuses, dans le spectacle vivant c'est tout à fait différent, par exemple, hein, et donc nos associations ont un rôle absolument critique pour précisément lever le doigt, pointer du doigt les atteintes au patrimoine et essayer de faire évoluer la législation dans un domaine qui nous est favorable.
Donc vous êtes une des grandes associations du patrimoine et vous faites partie du G8. Dites-nous peut-être un mot du G8. Le terme G8 est repris de ces réunions au sommet des pays internationaux.
Bon, c'est peut-être un peu prétentieux de s'appeler le G8, mais enfin, il s'est trouvé donc que le ministère de la Culture s'est rendu compte qu'il avait intérêt à avoir une certaine concertation avec les associations nationales reconnues d'utilité publique, ce qui est le cas des VMF, mais nous ne sommes pas les seuls. Donc nous étions à l'époque 8, nous ne sommes d'ailleurs plus que 7 après une fusion. Et donc, tous les deux ou trois fois dans l'année, nous avons des réunions avec les représentants du ministère pour discuter des sujets du moment. Et ça dure depuis maintenant, je pense, presque 7 ou 8 ans. Donc, ça fait donc un petit moment. Et même si, parfois, on a le sentiment que la concertation n'est pas évidente avec le ministère de la Culture, dans notre domaine, eh bien, quand même, il y a eu des contacts, il y a un travail de ce type qui a été fait. Et l'exemple le plus récent, qui n'est d'ailleurs pas complètement convaincant, c'est la loi sur le patrimoine qui est en cours de préparation, pour laquelle donc plusieurs réunions ont eu lieu, où nous avons fait nos observations, observations dont il n'a été, hélas, que très, très partiellement tenu compte. Donc voilà, mais une concertation qui n'a pas d'effet complet, c'est décevant, mais absence de concertation, ce serait bien pire. Donc le G8, c'est quand même important, et d'ailleurs on a essayé dans plusieurs régions de décliner ce travail en commun, car il y a beaucoup d'associations, on a parlé des seules associations nationales, mais il y a beaucoup d'associations locales de défense du patrimoine, et le fait de travailler en réseau, ensemble, est certainement une chose essentielle et tout à fait nécessaire.
Alors nous reparlerons peut-être de la loi patrimoine, ce sera un des nombreux sujets que nous allons aborder avec vous dans cette émission. Dites-nous un mot également, donc, les VMF découvertes, les autres, donc, défense du patrimoine, également, financement, puisque vous avez une fondation, VMF. Dites-nous un mot de cette fondation VMF.
Alors, soyons bien clairs. Le financement du patrimoine, c'est un enjeu majeur. C'est un enjeu majeur parce que le patrimoine, c'est à la fois un outil économique et culturel de première importance, et son entretien est d'un coût élevé. Nous considérons qu'il n'est pas pensable que la France, ayant la chance d'avoir un des plus beaux patrimoines qui existent sur la planète, eh bien, ça ne soit pas un atout que l'on cultive. On n'imagine pas qu'un industriel laisse tomber son usine. Voilà, il faut l'entretenir et c'est donc une chose tout à fait essentielle. Les finances publiques aujourd'hui, comme on le sait, sont dans une situation précaire. Et donc un des grands problèmes que l'on a, c'est la réduction très significative des fonds publics consacrés à l'entretien et à la restauration du patrimoine. Le budget du ministère en a pâti sérieusement. Il y a une baisse d'à peu près 25% qui s'est faite au cours des deux dernières années. Les collectivités locales, qui d'ailleurs sont dans un méli-mélo de réorganisation que chacun connaît, sont souvent, pour l'instant, avec une menace de baisse de ressources considérables, et donc seront tentées de réduire les fonds qui sont destinés au patrimoine. Donc, le financement public est un enjeu majeur. Et il ne faut pas croire, malgré tout ce que je vais dire après, que le mécénat, par exemple, peut remplacer les finances publiques. Ça, c'est une vue de l'esprit. Donc, soyons bien clairs. Ceci étant dit, le mécénat offre une possibilité de collecte de fonds qui est considérable en France. Il y a une fameuse loi Aillagon qui a été votée maintenant il y a une dizaine d'années, qui a fait que la législation française est une des plus favorables qui soit au monde quand même, et donc nous en tirons parti. Et nous essayons au maximum de solliciter le mécénat. Alors donc nous avons créé une fondation VMF, qui est abritée auprès de la Fondation du patrimoine. Et voilà, en 5 ans, c'est une fondation qui a quand même réussi à collecter plus de 2 millions d'euros. Donc c'est quand même des sommes qui commencent à devenir significatives.
Vous les collectez comment, ces fonds ?
Et alors, nous les collectons de deux façons. Par des mails, pardon, des mailings, excusez-moi, qui soient classiques, papier, ou en mettant dans notre revue des inserts, etc. Donc, disons, une démarche papier traditionnelle. Et puis, nous avons développé depuis 2 ans une démarche par Internet, puisqu'on est sur le net, là, de crowdfunding, comme chacun des internautes a dû entendre parler de ce terme. Et donc, on a lancé une opération qui s'appelle Food Patrimoine l'année dernière et qui a recommencé. Donc, la deuxième édition vient de se terminer il y a quelques jours. Et là, pour le coup, ce sont les internautes qui ont voté sur le choix parmi une dizaine de sites de l'un d'entre eux. Ils ont d'ailleurs mis en exergue deux d'entre eux, à vrai dire, que nous avons retenus. Et puis, on en a rajouté deux
Lequel?
autres. Alors, il y a deux châteaux, Villemont dans le Puy-de-Dôme, Vaires dans la Loire-Atlantique. Et puis, il y a une forteresse qui est Oppède dans le Vaucluse, Oppède le Vieux. Et puis, une église qui est dans un village du Lot-et-Garonne qui s'appelle Cocumont et qui est une admirable église avec toutes sortes, qui appartient d'ailleurs à une commune, sachant que les trois autres lieux, les deux châteaux sont privés, avec des propriétaires privés, et la forteresse, elle, est reprise en main par une association. Donc, on a toute une série de cas de figure. Donc, bref, nous avons. Plus de 600 donateurs en quelques semaines qui se sont manifestés. La collecte a été d'un peu plus de 200 000 euros, donc c'est des sommes importantes, hein. Donc la collecte par Internet a très très bien pris dans notre dispositif, et ça c'est une très bonne nouvelle.
Cet argent va servir à des restaurations fondamentales, elle va être partie comment?
Alors la fondation, d'une manière générale, sa vocation première, c'est le patrimoine en péril. Donc, on a un dossier avec une situation critique et on va aider le propriétaire à mettre en œuvre soit des mesures de précaution, littéralement, de sauvetage, étaiement. Par exemple, l'année dernière, il y avait une abbaye, il y avait une salle magnifique capitulaire qu'il fallait d'urgence.
Quelle abbaye?
L'abbaye de la Clarté-Dieu,
Oui.
je ne voudrais pas dire de blague sur le département maintenant, dans les Pays de Loire en tout cas, eh bien, il fallait étayer cette salle absolument magnifique. Ça a été fait. Ensuite, il y a tout le travail derrière. Mais disons que ces opérations, soit de sauvetage littéralement, soit de restauration, ont été commencées et ce qui est tout à fait formidable, quand on fait des opérations de crowdfunding, on s'en est rendu compte, c'est qu'il y a une couverture médiatique qui est incroyable, ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer, et il y a un écho local considérable, ce qui fait que nos actions dans ce domaine ont un effet de levier, ce qu'on appelle un effet de levier énorme, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a lancé l'affaire, d'autres partenaires se réveillent et vont donner un coup de main pour la restauration de ces lieux. Donc le mécénat est quand même très important, et d'ailleurs nous ne sommes pas les seuls à agir de la sorte. La Fondation du patrimoine, de son côté, elle aussi, qui reçoit des fonds publics, elle pour le coup, en plus, avec les legs en déshérence, met en œuvre cela avec les opérations dites de souscription, et il faut avoir en tête que ces opérations de souscription, ce qu'ils appellent ces opérations de souscription, donc une association locale va se mobiliser pour un lieu, il y en a eu 800 l'année dernière, montées par la Fondation du patrimoine, qui ont collecté plusieurs millions d'euros, donc c'est en fait, il y a chez les Français un véritable engouement pour le patrimoine, et quand on leur donne la possibilité concrètement d'agir, eh bien, on s'aperçoit qu'ils sont des milliers à être prêts à le faire. Et donc, notre fondation, elle répond aussi à ce besoin, et ça, c'est très encourageant, parce qu'il y avait jusqu'alors une certaine incompréhension, on peut dire, entre finalement le fait que des millions de gens viennent aux journées européennes du patrimoine et que derrière, rien ne se fasse. Et là, au fond, on voit que petit à petit, on arrive à transformer cette formidable énergie dans notre pays en quelque chose de concret et d'utile pour le patrimoine.
Est-ce que la multiplication parce que le crowdfunding, comme vous le dites, et non pas crowdfunding, comme je l'ai écrit dans un article, je l'ai corrigé, le crowdfunding, est-ce qu'il se développe beaucoup, également pour les musées, pour restauration d'un musée, pour achat d'œuvres dans les musées? Est-ce qu'il n'y a pas un risque? Est-ce que vous ne le sentez pas déjà? Apparemment, on a l'impression que toutes ces opérations marchent, ce qui est extraordinaire. Ce qui prouve qu'il y a une. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de concurrence entre les uns et les autres?
D'abord, j'avais, il y a quelque temps, regardé un petit peu, fait un bilan de toutes les opérations qui avaient été lancées. Toutes ne marchent pas.
Non, d'accord.
Toutes ne marchent pas. Donc ça, c'est une chose qu'il faut bien dire. Donc, pour que ça marche, il faut un professionnalisme et un effort considérable. C'est-à-dire qu'il faut vraiment un projet qui soit très bien présenté. Il faut que les animateurs du projet, nous ne pouvons pas nous substituer à des propriétaires ou à des associations locales. Il faut qu'il y ait vraiment un maître d'ouvrage qui soit très actif et qui soit communicant. Si vous n'êtes pas communicant, il y a un vrai problème. Et donc, il faut... tout ne marche pas. Alors ensuite, est-ce qu'il y en a trop? Alors moi, je vais vous dire, j'ai horreur du malthusianisme. Je pense que nous devons être sélectifs, bien choisir les bons projets qui nous semblent vraiment adaptés à ce genre de collecte. Tous ne le sont pas, je le répète vraiment. Et donc, et à partir du moment où on fait bien les choses, le public réagit très fortement. Et les passionnés du patrimoine, il y en a des milliers et des milliers dans ce pays.
Alors comme vous l'avez dit, il ne faut pas que ce... crowdfunding, que cet appel à la souscription publique remplace le financement public. C'est un risque et vous souhaitiez qu'on parle dans cette émission du financement plus global du patrimoine. Quelles sont les sources de financement possibles alors que on sait, je suis en général très peu d'accord avec le discours ambiant disant qu'il n'y a plus d'argent. Le ministère de la Culture a encore beaucoup, beaucoup d'argent. C'est une question de priorité. Et à mon avis, des priorités qui sont souvent mal choisies. Il y a encore de l'argent, mais c'est vrai qu'en définitive, au bout du compte, il y a moins d'argent pour le patrimoine. Alors comment faire, justement, pour financer ces besoins qui sont énormes? Et dernière question deuxième question qui est la même. En fait, je crois qu'il faudrait, les associations ont dit qu'il faudrait 400 millions d'euros minimum par an pour maintenir à flot et encore le patrimoine tel qu'il est, et on est bien en dessous.
Alors, ce n'est pas les associations, ce sont les deux chambres du Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat, qui, lors de la législature précédente, ont estimé de façon combinée que le chiffre qu'il fallait atteindre était 400 millions. Donc, c'est quand même un chiffre qui a fait l'objet d'une étude publique et d'une prise de position publique. Et d'ailleurs, dans la précédente législature, le gouvernement avait rehaussé, justement, l'enveloppe au niveau de 400 millions. Et c'est depuis que cette dotation a baissé. Alors, ensuite, aujourd'hui, si vous voulez, le ministère a essayé de sauver, si on peut dire, les meubles, en essayant d'éviter que des fonds trop importants soient mis dans des opérations colossales qui étaient très dévoreuses de capitaux. La dernière d'entre elles, c'était le MUCEM, par exemple, le musée de Marseille.
Mais le MUCEM ne rentre pas dans ces 400 millions d'euros.
Si, parce que alors là, c'est toujours un problème très compliqué quand vous regardez le budget du ministère de la Culture, c'est de voir qui fait quoi et où sont les fonds, à quoi sont destinés les fonds. Donc le fonds était quand même avec une vision assez large. Bon, bref, donc les opérations exceptionnelles sont devenues beaucoup plus rares et le ministère a préféré, juste titre d'ailleurs, essayer de préserver les crédits en région de restauration du patrimoine. Donc, il faut quand même le dire. Et là est arrivé un deuxième sujet qui pose un problème, c'est qu'il y a un certain nombre de DRAC, de régions, donc, dans lesquelles il y a eu des annulations de crédits. C'est-à-dire que les crédits n'étaient pas utilisés, quoi qu'en baisse. Alors, c'est quand même stupéfiant. Et pourquoi? Parce que, malheureusement, la réforme de la maîtrise d'ouvrage... Alors, je rappelle qu'un bâtiment, il a un propriétaire. Le propriétaire, ça peut être l'État, ça peut être une commune, ça peut être un particulier. Eh bien, ce particulier, on l'appelle le maître d'ouvrage. Auparavant, dans les monuments classés en particulier, c'était toujours l'État qui assurait la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire la responsabilité ultime, même quand le propriétaire était une commune ou un particulier, eh bien, des opérations. La réforme qui a été mise en place il y a quelques années a été de dire c'est pas normal, c'est à la commune, c'est au département, c'est au propriétaire privé d'être le maître d'ouvrage. Sauf que les trois quarts des intéressés ne sont pas en mesure d'assumer, avec les compétences requises, ce rôle de maître d'ouvrage. Et malheureusement, donc, faute d'avoir organisé une assistance à la maîtrise d'ouvrage dans toutes les régions, un certain nombre d'entre elles, la grande majorité d'entre elles, s'est trouvée dans une situation où plus personne ne savait comment planifier de façon correcte les travaux. Et donc, faute de cette planification, faute de cette assistance à maîtrise d'ouvrage, eh bien, les dossiers n'étaient pas bouclés et il y a eu donc des catastrophes et des renvois de crédit, ce qui est quand même un comble dans la situation actuelle. Donc voilà, donc, alors du coup, un des grands...
C'est toujours le cas actuellement, cette année, en 2014.
C'est toujours le cas, bien sûr. Nous avons, dans le cadre du GEMIT, et d'une rencontre qu'on a eue avec la dernière nommée de nos ministres, Fleur Pellerin, donc on a été amené à rappeler que c'était un enjeu majeur, que les DRAC s'organisent d'une façon efficace dans ce domaine. Bon. Alors j'espère que nous serons entendus et nous connaissons des exemples tout à fait patents de dragues qui marchent très bien et de dragues qui n'ont pas du tout bien fonctionné au cours des années passées.
Alors justement, je en profite pour dire à nos auditeurs que la semaine prochaine, nous recevrons Henri Masson, qui est conservateur régional des monuments historiques en Bretagne et qui, eux, font de l'assistance à maîtrise d'ouvrage.
Donc, parfaitement. Si j'avais à citer un bon élève dans la classe, c'est bien lui, justement. D'ailleurs, il est venu faire une exposée tout à fait remarquable devant l'Assemblée générale des vieilles maisons françaises. Et on a été assez sidérés de voir comment il y était arrivé, quand même. Donc, voilà, c'est faisable.
C'est pour ça que nous avons... Enfin, j'ai fait un article et une vidéo sur la restauration de la cathédrale de Rennes, et j'ai trouvé que l'opération était tout à fait exemplaire. Et la manière dont Henri Masson s'exprime par rapport à ses devoirs, au devoir du ministère de la Culture, à ce qu'on doit faire par rapport aux propriétaires privés et aux propriétaires publics, d'ailleurs, ça correspondait assez à ce que j'imaginais moi-même. Et vous me le confirmez, en fait.
Donc voilà. Mais il faudrait que la Bretagne ne soit pas l'exception. Voilà le point. Et d'ailleurs, vous citez la cathédrale de Rennes, mais attention, c'est une cathédrale d'État. Oui. Et donc là, et moi je vise l'assistance à maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire les monuments de petites villes ou même de particuliers.
Ce que je disais, c'est qu'il y a parfois certains grands monuments d'État qui sont restaurés, c'est pas forcément fait dans les normes, ou souvent quand même, mais parfois c'est aussi par petits bouts. Donc là, ils font une restauration entière. C'est-à-dire que c'est de principe, je pense que les principes utilisés en Bretagne, on en parlera avec Henri Masson la semaine prochaine, me paraissent très bons, et je suis heureux que vous me le confirmiez, j'avais donc bien eu le...
Bien vu.
Bien vu. Donc, on parlait donc de ce financement du patrimoine, et donc du fait qu'on ne dépense pas tout l'argent. Qu'est-ce qui peut permettre comment pourrait-on sortir de cette situation qui finalement ne fonctionne pas bien?
Alors, il y a un autre aspect qu'on n'a pas évoqué, c'est quand même le rôle des collectivités locales. Parce que, un des grands intervenants quand même aux côtés de l'État, ce sont de manière générale dans le domaine culturel, mais aussi dans le patrimoine, ce sont les collectivités territoriales. Et la difficulté qu'on va avoir dans le domaine culturel, c'est qu'au fond, vous savez, c'est une compétence dite partagée. C'est-à-dire qu'on veut rationaliser les compétences, mais dans le cas de la culture, on a dit que c'est difficile de choisir entre la région, le département, les communes, donc c'est un peu tout le monde. Résultat pratique, comme un certain nombre de ces collectivités, notamment les départements, sont pris à la gorge par des dépenses obligatoires, elles, genre dépenses sociales dans les départements, eh bien les crédits de ces collectivités destinés au patrimoine sont vraiment réduits de façon considérable. On voit des chutes très fortes de ce côté-là. Donc dans les financements publics, il y a une véritable inquiétude dans ce domaine, d'autant que la réforme des collectivités territoriales qui vient d'être lancée maintenant avec le vote de l'Assemblée nationale sur les régions, crée quand même va créer au fond une espèce de blocage, à mon avis, au cours des années prochaines, qui est très, très menaçant. Si vous voulez, on voit bien que les régions, les services régionaux ne savent pas encore très bien comment, à quelle sauce ils vont être dévorés, parce qu'il va y avoir des fusions qui vont être très complexes. Bon, vous avez des départements qui, eux, ne savent absolument pas ce qu'ils vont devenir. On a entendu toutes sortes de sons de cloche, et donc les services départementaux sont assez figés, eux aussi. Donc vous voyez, on a un contexte côté collectivité locale qui est redoutable. Donc ça, c'est un vrai problème, et il faudra quand même qu'on clarifie les choses assez rapidement, et de façon à ce qu'on n'ait pas finalement des années blanches, alors qu'on n'a pas du tout le temps d'avoir des années blanches. Voilà. Et puis un troisième point sur lequel je voudrais insister sur la question des financements, c'est du rôle respectif de l'entretien et de la restauration. Ce qu'il faut bien savoir en tête, c'est que ce qui coûte affreusement cher, c'est des restaurations très lourdes quand elles sont nécessaires. Et donc, rien n'est plus coûteux de ce point de vue-là. Et il y a quand même un exemple que j'ai toujours en tête, qui est un exemple dans les Flandres. Dans les Flandres, on a créé un service associatif d'ailleurs qui s'appelle le Monumentenwacht, ce qui en français veut dire au fond la surveillance des bâtiments, des monuments.
Et ceci, c'est les Flandres belges. Donc
les Flandres belges. Nous sommes dans les Flandres, en Belgique. Nous sommes exactement. Et aujourd'hui, un dispositif a été mis en place par le gouvernement des Flandres, dans lequel, si vous acceptez le diagnostic d'un ingénieur ou architecte et que vous respectez les règles qui vous sont soumises en termes d'entretien, vous avez un financement maximum, très fort. Et en Flandre, plus de 5000, lorsque j'y suis allé, donc c'était il y a 2 ans, plus de 5000 bâtiments avaient accepté, publics et privés d'ailleurs, de rentrer dans ce dispositif. Et au bout d'une... Alors c'est un dispositif qui date d'il y a plus d'une dizaine d'années, et donc ça a entraîné un bien meilleur entretien des bâtiments au cours des 10 années passées, et le gouvernement des Flandres s'est rendu compte au bout de 10 ans que la demande de restauration lourde baissait fortement. Et donc finalement le coût du patrimoine. C'est réduit, donc on a eu une bien meilleure gestion économique, si je puis dire, du patrimoine, du fait que l'on entretenait beaucoup mieux qu'avant. Et donc je pense qu'un des enjeux en France aussi, c'est de s'inspirer de cette affaire-là. Et les gouvernements ont souligné que l'entretien, c'était important. Mais il y a une chose, moi, qui m'a beaucoup frappé, justement, quand on a eu un colloque l'année dernière où plusieurs architectes en chef, responsables de DRAC et de services départementaux sont venus s'exprimer, ils ont dit que c'était presque malséant de demander une opération limitée d'entretien à un architecte. Et que donc, en fait, il y avait une sorte de propension à privilégier les gros coûts,
ça rapporte plus,
qui rapportent plus, d'une certaine façon, plutôt que les fonctions d'entretien plus modestes, qui sont pourtant essentielles. Donc, on n'a pas du tout résolu ce problème de la priorité absolue à l'entretien, et je pense honnêtement que c'est un des grands challenges que nous avons du point de vue de la dépense face à l'entretien des bâtiments.
Tout ce que vous nous dites confirme, et là, c'est ce que vous disiez sur le... sur l'état de désorganisation complète de la protection du patrimoine en France, dû en fait à ces réformes permanentes qui sont mal maîtrisées. Une entreprise privée qui serait gérée comme ça, les dirigeants seraient virés. Hein. Je pense vraiment.
C'est-à-dire que, voyez-vous, je pense que il y a à la fois dans tous ces services des gens qui se donnent un mal énorme.
Tout à fait, sur le terrain
ouais. Et qui font donc des efforts considérables pour s'en sortir du mieux qu'ils peuvent. Et en même temps, on voit bien qu'il y a des axes d'efforts qui ne sont pas assez clairement définis et mis en œuvre. Ce qui, au fond, fait défaut. Moi, moi-même, j'étais dans la haute fonction publique dans un temps antérieur, et je trouve que ce qui fait terriblement défaut, et j'étais en entreprise, donc je connais les deux cultures, eh bien, en entreprise, quand on s'est fixé un objectif, on y va. On fonce et on est jugé sur la capacité au plus vite à résoudre le problème qui a été posé. Dans le cas des politiques publiques, on a le sentiment qu'il y a beaucoup d'incantations et qu'après, pour mener à bien un projet, il y a une déperdition absolument terrifiante. Et donc ça, c'est un véritable problème, indéniablement. Je suis bien d'accord avec vous.
Alors parlons maintenant de quelques dossiers brûlants, à la fois à Paris et bien sûr en province. Alors, des dossiers brûlants que la Tribune de l'Art et les vieilles maisons françaises suivent d'assez près, c'est par exemple Roland-Garros et les serres de Teuil, le massacre programmé des serres de Teuil par Roland-Garros. Quel est votre rôle dans cette affaire ? Alors, dans ce combat contre cette affaire, plutôt.
Si vous voulez, alors, il y a une chose que je voudrais dire comme ça, avec un petit clignement d'œil, si je puis dire, c'est qu'on a beau s'appeler les VMF, donc vieilles maisons françaises, on ne s'occupe pas que de maisons. On s'occupe du patrimoine de façon la plus large possible, c'est grand patrimoine, petit patrimoine, bâti, non bâti, et aussi environnement. Et c'est une chose d'ailleurs tout à fait frappante que dans ce domaine, en France, on n'arrive pas à conjuguer correctement le patrimoine culturel et le patrimoine naturel. On y reviendra tout à l'heure peut-être. Mais en tout cas, donc, nous, dans cette affaire, on a une chose qui nous a absolument stupéfaite, c'est que ce jardin, qui est une œuvre cohérente, faite par un des plus meilleurs esprits français de la fin du 19e dans ce domaine. Une réalisation d'avant-garde, protégée doublement au titre des sites et des monuments historiques, et bien que l'administration, aux ordres, s'écrasait devant une atteinte majeure. Ça, si vous voulez, ça, c'est pas supportable. Et c'est un des grands enjeux en France aussi. On a des règlements, des lois, et il est quand même tout à fait extraordinaire qu'on puisse s'asseoir dessus avec autant d'allégresse de temps en temps. Donc ça nous a littéralement frappé. Et j'ai suivi à l'époque le débat public qui a eu lieu. Donc c'est comme ça que je suis rentré dans cette affaire. Hein. Donc je ne connaissais pas dans les détails toute cette affaire, mais je l'ai donc bien connu, bien travaillé en quelque sorte. Et vraiment, je me suis rendu compte que c'était énorme ce truc-là, et qu'on puisse tolérer ce genre de pratique en plein Paris, c'était pas supportable. Et c'était d'autant moins supportable que j'ai eu la conviction assez rapidement que une alternative était possible. On peut discuter de l'aberration de maintenir un tel tournoi en plein centre de Paris. Il y avait d'autres solutions. Moi, je ne me rentre pas dans ce débat-là. Mais je dis simplement, en respectant le cahier des charges tel qu'il est, il y avait un plan B possible. Et donc, les VMF se sont en fait mises à travailler avec. Alors, on s'est mis en duo avec deux autres associations, donc l'ASPEF et France Environnement, et on a appointé, avec l'aide d'ailleurs de la mairie de Boulogne, un ingénieur, et on a fait une étude qui a duré plus d'un an pour regarder de très très près ce qui était possible de faire. Et donc, au bout d'un an, il s'est passé que simultanément, on a eu donc tous les éléments de retour de notre étude et que le tribunal administratif a annulé la convention, si vous vous souvenez, qui unissait la Fédération française de tennis à la ville de Paris. Et donc, on a sorti dans la foulée, pratiquement, de cette annulation qui a fait grand bruit, eh bien, notre contre-projet. Donc, ça a eu un grand effet. Et le Conseil de Paris a demandé qu'une expertise soit faite sur ce, à l'unanimité, qu'une contre-expertise soit faite sur, justement, notre projet, notre contre-projet. Et alors, c'est rentré ensuite dans les sables. Et le scandale aujourd'hui, c'est que la commissaire enquêtrice qui vient de publier son rapport, finalement, ne tient mais pas le moindre compte de ce contre-projet et a le culot inouï, mais que l'ABF, qui avait été en charge d'un rapport, avait eu lui-même auparavant, de dire que rien ne serait plus beau qu'un court de tennis au milieu du jardin des serres d'Auteuil. Donc, si vous voulez, quand vous savez, le sapeur Camembert dit quand les bornes sont franchies, il n'y a plus de limite, là, en l'espèce, on est pile dans ce genre de situation. Et je peux vous dire que nous sommes archi-déterminés à mener jusqu'à son terme ce combat, c'est-à-dire jusqu'aux contentieux les plus vigoureux, et nous avons quelques bottes dans notre botte, dans nos poches, plus ou moins, parce qu'il y a vraiment, de ce point de vue-là, une situation qui est insupportable. Et encore une fois, si on ne réagit pas de temps en temps sur des cas emblématiques comme cela, eh bien après, si vous voulez, sur des cas qui sont moins emblématiques, on n'arrivera plus à motiver les gens. Ils se sont dit, puisque vous avez, si je puis me permettre, baissé la culotte sur un sujet pareil, comment pouvez-vous ensuite nous dire qu'il faut qu'on se batte sur d'autres sujets? C'est un vrai problème.
Comment expliquer, moi je n'arrive pas à me l'expliquer, sinon par une bêtise invraisemblable de personnes qui sont en charge de ça, mais je ne peux pas le croire qu'il soit si bête que cela, cette obstination, alors que vous avez proposé effectivement un contre-projet, qui est viable, comme cela a été montré par la contre-expertise demandée par le Conseil de Paris. Et pourtant, effectivement, la commissaire enquêtrice dit, pour dire que ce n'est pas viable, elle demande à la ville de Paris et à la FFT, c'est-à-dire c'est à ceux qui veulent faire l'autre projet. Donc comment expliquer cette obstination et comment expliquer un tel déni, j'allais dire, du bon sens?
Il faut quand même dire aux auditeurs que ce qui nous est reproché, on nous dit que c'est impensable de faire une couverture sur la bretelle de l'autoroute A13 qui file vers la Normandie. Je signale quand même que cette bretelle est couverte déjà dans la traversée de Boulogne. Et chose amusante, vous n'avez qu'à regarder sur Google Maps, vous verrez, il y a déjà des cours de tennis sur cette partie-là. Bon, donc, c'est n'importe quoi. Alors, on nous dit, alors on essaie de nous faire dire des choses qui sont fausses. La mairie a prétendu que le surcoût de notre opération, c'était 250 millions d'euros parce qu'elle incluait des travaux gigantesques qui n'étaient pas du tout dans notre contre-projet. Donc, on falsifie notre contre-projet pour dire qu'il est infaisable. Et donc, tout ça, c'est vraiment faux. Et les expertises qui ont été faites montrent que le surcoût de cette couverture est en fait minime. Et en plus, il faut bien dire une chose, c'est que cette saignée dans le Bois de Boulogne est très fâcheuse et que la couverture a l'avantage d'effacer une blessure qui avait été faite il y a une cinquantaine d'années maintenant, et ce serait quand même très bien. Donc, tout ça, c'est de la... En fait, je pense qu'il y a des postures à l'heure actuelle, des postures politiques qui empêchent le dossier pour l'instant d'évoluer. Et ça, nous n'avons pas dit notre dernier mot sur cette affaire.
Bizarrement, l'affaire récente qui n'a rien à voir, je ne veux pas juger d'ailleurs est-ce que c'était bon, pas bon, etc. Mais des choses comme le barrage de Sirvens, comme Notre-Dame-des-Landes, qui ont finalement, le gouvernement est obligé de reculer face à la détermination des protecteurs du patrimoine, ça ne les fait même pas réfléchir. C'est assez curieux, je trouve.
C'est-à-dire que ce qui est désolant dans cette affaire, c'est que finalement, des procédures qui existent et qui devraient permettre, dans le cadre de concertation, de faire évoluer éventuellement les choses et de trouver un certain consensus, ces procédures ne sont pas mises en œuvre correctement et elles provoquent des conflits violents. C'est ça qui est vraiment extrêmement contrariant. Et je ne comprends pas, effectivement, qu'alors que Sirvens montre exactement ce qu'il faut éviter de faire, que dans un autre domaine, on ait des gens qui soient autistes à ce point au niveau de la mairie de Paris.
Alors j'aimerais qu'on aborde maintenant un sujet qui vous préoccupe gravement, nous aussi. On n'en parle peut-être pas suffisamment sur le site. Récemment, j'ai fait un article sur les éoliennes qui menacent Arc-et-Senans. Donc c'est les éoliennes en France. J'aimerais que vous nous disiez, parce que vous connaissez bien le sujet, il y a beaucoup de gens qui disent, mais c'est, il faut bien faire quelque chose. Or, non seulement, ça a été démontré par beaucoup de gens, je crois que vous allez nous le confirmer, les éoliennes ne résolvent pas le problème de l'énergie manquante, ou ne remplaceront pas le pétrole, jamais. Et deuxièmement, c'est quand même dramatique au point de vue écologique, ne serait-ce que pour les animaux, pour les oiseaux, et puis pour le paysage, et c'est ce que vous disiez au départ, c'est-à-dire que le paysage doit être pris avec le patrimoine, c'est un ensemble. Donc, pourquoi ? Et c'est vrai que là, c'est un point d'achoppement. Roland-Garros, les écologistes sont très, très, très remontés également contre ce qui se passe à Roland-Garros. Mais en revanche, pour les éoliennes, c'est un vrai point d'achoppement entre les écologistes et les défenseurs du patrimoine. Comment est-ce qu'on peut sortir de ce problème ? Et une dernière chose, les éoliennes sont un grand vecteur de corruption, une grande cause de corruption, comme ça a été dit récemment dans un rapport officiel. Donc, c'est les éoliennes. Parlez-nous de votre combat et de ce que vous pensez des éoliennes en général.
Alors, si vous voulez, il y a un enjeu commun quand même, qui est l'enjeu climatique et la transition énergétique. Bon, donc, on ne peut pas nier qu'il faut absolument faire des efforts pour améliorer, en quelque sorte, l'équation actuelle qui conduit à toujours plus d'émissions de CO2, à un réchauffement climatique. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui contestent cette idée-là. Donc, je reconnais volontiers qu'il y a à faire. Et dans ce domaine, il y a beaucoup de choses à faire. Bon. Dans le domaine des économies d'énergie, il faut bien voir que les deux tiers du bâti en France ont été construits après 1948, à une période où c'était le pétrole pas cher du tout, du tout, du tout, et donc on se fichait éperdument de tout ce qui était isolation. Bon. Donc, que pour ces deux tiers du patrimoine bâti français, il y ait d'immenses travaux à faire de remise en état et d'isolation, ça me semble tout à fait légitime. Je trouve même qu'on ne l'aide pas assez. Je pense que l'espèce, on pourrait l'aider davantage. Mais par contre, que dans la loi transition énergétique...
Alors, oui, là on parle de la loi de transition énergétique, là je parle des éoliennes.
Non, mais parce que je suis sur le domaine de l'énergie au sens large.
Rappelez la loi de transition énergétique, c'est ce qu'elle prévoit.
La loi de transition énergétique dit qu'il faut, pour que les économies d'énergie soient accélérées, finalement, il y a un article 3 qui dit qu'il faut pratiquement que l'on double, que dans quelques années, si on n'a pas doublé pratiquement toutes ces façades pour les isoler, on sera hors la loi. Enfin, si je simplifie l'article en question. Donc ça, c'est une énormité de dire qu'on va faire de l'isolation par l'extérieur sur des bâtiments qui doivent absolument respirer. Car les techniques du bâti ancien, c'est cela. Donc on a fait d'ailleurs une démarche collective du G8 pour qu'un amendement soit déposé dans ce domaine. Donc, si vous voulez, on accepte bien volontiers l'idée générale que la politique énergétique doit évoluer. Ensuite, sur les sources d'énergie, il y a, à mon avis, un contresens incroyable qui est fait aujourd'hui. Le problème numéro un, c'est les émissions de CO2. Et donc, que l'on dise qu'on veut favoriser les énergies propres de ce point de vue-là, c'est une chose qui est correcte, mais il y a en France une contradiction innée qui est majeure, c'est qu'on n'a jamais voulu admettre que le nucléaire en fasse partie. Car le nucléaire ne fait pas d'émissions de CO2. Et donc voilà, donc on est aujourd'hui avec des objectifs qui sont absurdes, alors qu'un pays comme l'Allemagne, par exemple, qui n'a fait pas le nucléaire, et dont 50% de l'énergie vient de la lignite, qui est une saloperie, qui émet un CO2 monstrueux, eux, ils ont l'air d'être parés de toutes les vertus, parce qu'ils font du charbon et de l'éolien. Et donc leur bilan CO2 est bien plus mauvais que le nôtre. Donc je trouve qu'il y a des contradictions incroyables. Alors sur l'éolien, pour y venir justement, l'éolien pour nous est le type même de mauvaise solution. Car sur le plan de l'efficacité énergétique, chacun sait que ça ne fonctionne que 25% du temps. Deuxièmement, que le bilan énergétique est nul parce qu'il faut qu'il y ait comme c'est une énergie intermittente, il faut qu'il y ait des centrales traditionnelles qui suppléent les vacances de l'éolien. Et donc, on a été amené à mettre en service des centrales thermiques qui avaient un bilan CO2 qui était infiniment moins bon. Donc, ça, le bilan est nul. Et donc, efficacité énergétique médiocre et bilan CO2 mauvais. Donc, au total, on se demande pourquoi on défend cela. Et pourquoi est-ce qu'on défend l'éolien en France ? Parce que c'est une question de fric et d'argent sale bien souvent. Donc c'est un problème qui est insupportable, il faut bien le dire, hein, je vise très spécifiquement cette énergie-là. C'est un problème qui est insupportable parce que vous avez, on sait par exemple qu'il y a énormément de prises d'intérêt illégales qui se font dans les délibérations. Les gens essayent d'obtenir de l'argent au plan local pour que les éoliennes soient chez eux. Et on sait aujourd'hui qu'il y a toute une série d'actions qu'on est en train de mener parce que des élus qui avaient des partis dans cette affaire, qui avaient donc se sont servis en quelque sorte de façon indue. Donc c'est absolument incroyable. Les fonds d'origine qui financent ces éoliennes sont parfois d'origine douteuse. Bref, vraiment, c'est une économie qui est très particulière. Et quand on nous dit que ça crée des emplois en France, on se fout du monde, car on sait bien que les savoir-faire initiaux pour l'éolien terrestre viennent d'Allemagne, du Danemark et certainement très peu de France. Donc l'enjeu d'emploi est nul. Et alors, en contrepartie, on n'est pas arrivé à obtenir qu'au moins on ait des règles assez strictes pour éviter d'empoisonner la vie des gens, parce que c'est le cadre de vie des gens qui est en jeu. Or, aujourd'hui, avec toutes les suppressions de limites qui ont été imposées dans la dernière législature, il n'y a pratiquement plus de limites réglementaires à quoi que ce soit. Il n'y a plus de débat public, il n'y a plus de débat d'enquête publique comme avant, au niveau avec mise en jeu des collectivités territoriales. Et donc aujourd'hui, avec une procédure simplifiée qui a été mise en place en test dans la moitié des régions, on est aujourd'hui à la merci de décisions complètement arbitraires. Et ce qui est absolument incroyable, c'est que vous avez dans la plupart des cas des gens qui mettent leurs éoliennes le plus loin possible de chez eux, le plus près possible de la commune voisine, et qui vont toucher de l'argent alors que les autres n'en touchent aucun. Donc ça crée des bagarres au niveau local, partout. Donc ça crée un climat d'inimitié extrême, des campagnes très, très violentes même, et un nombre de procès qui est incalculable, puisque pratiquement les trois quarts des dossiers aujourd'hui donnent lieu à des procédures, ce qui est tout à fait anormal. Si tous les domaines en France aujourd'hui donnaient lieu à un taux de contentieux aussi majeur, le France serait archi-bloqué. Donc c'est absolument incroyable. Donc voilà, nous sommes donc très engagés dans ce combat. Nous avons mené le combat contre les schémas régionaux d'éolien qui ont été une galéjade. Et vous avez vu que le schéma de l'Île-de-France est le premier qui a été annulé. Donc c'est une grande satisfaction, évidemment. Et nous sommes partis, alors nous ne sommes pas dans toutes les régions, mais nous sommes dans certaines régions. Et donc nous espérons bien que d'autres schémas régionaux seront à leur tour annulés. C'est un premier pas. Mais il faudra, tôt ou tard, que l'on remette des limites beaucoup plus strictes. Par exemple, on avait un minimum de 5 mâts qui était nécessaire. Ça me semble absolument indispensable d'éviter le mitage partout. Les Allemands ont réfléchi.
Ce que je veux dire, c'est qu'actuellement, on peut mettre une éolienne ici, une éolienne là, n'importe comment.
Exactement. Les Allemands, on a une limite de 500 mètres. Il faut qu'on soit à plus de 500 mètres. Mais enfin, quand les éoliennes actuelles font 200 mètres de haut.
C'est-à-dire plus haut que la tour triangle.
Alors, les Allemands ont dit, eux, il faudrait qu'on ait un système proportionnel de la hauteur et que ce soit un multiple. Et donc, ils ont dit 500 mètres si c'est 50 mètres de haut. Donc, un multiple de 10. Si c'est 200 mètres de haut, c'est 2 km. Vous voyez, c'est un multiple de 10 par rapport à la hauteur. Voilà une chose qui serait assez raisonnable. Et donc, il y a un certain nombre de règles comme ça, mais la véritable chose qu'il faudra tôt ou tard faire, c'est réduire le prix de rachat de l'électricité
pour. C'est illégal.
Qui est en plus archi contesté, comme vous l'avez bien entendu.
Au point de vue européen, c'était le prix de rachat. Ce qu'il faut savoir, c'est que le prix de rachat, en fait, obligatoire par EDF de l'énergie produite par les énergies éoliennes a été jugé illégal par la Cour européenne.
Il y a deux choses qui sont d'ailleurs notables, c'est que ce prix-là a été jugé illégal comme une subvention illicite, en quelque sorte, et deuxièmement, il y a un autre aspect qui est fort de café, c'est qu'on le mette sur les factures de tous les gens qui payent leurs factures d'électricité.
Qui peuvent d'ailleurs chacun contester et gagnerait.
Exactement, que j'engage vigoureusement à contester. Donc nous sommes en train de réfléchir à des procédures collectives, puisque c'est maintenant possible. Hein, donc c'est un point très important. Donc en fait, le point est là, et d'ailleurs, il faut savoir qu'un pays qu'on a souvent cité comme étant la figure de proue de l'éolien, c'est le Danemark. Il a décidé de baisser sérieusement le prix de rachat d'électricité et maintenant il n'y a plus de projet éolien au Danemark. Et les Allemands se sont posés sérieusement la question, ont commencé à baisser aussi ce prix. Donc je pense que ce n'est que dans ce cadre-là que nous finirons par sortir de ce faux problème qu'est l'éolien et je tiens à dire qu'on ferait mieux de dépenser de l'argent sur la recherche d'énergie nouvelle et la potentielle. Par exemple, vous avez au large de la Manche les deux des plus grands gisements européens pour l'hydrolien, donc les énergies, elles, qui sont marémotrices, eh bien, voilà un investissement et une technologie que nous pourrions maîtriser, donc ça, nous serions d'avant-garde, en ayant un gisement gigantesque. C'est, à mon avis, plus intelligent de mettre des fonds là-dedans que dans les éoliennes terrestres.
Alors pourquoi, juste une dernière question sur l'éolien, devant, enfin il y a des preuves, il y a vraiment des preuves de tout ce que vous expliquez, et pourquoi est-ce que les hommes politiques qui dirigent notre pays ne comprennent pas cela? Il y a une espèce de hier, sans dire d'ailleurs, parce que vous avez parlé effectivement du nucléaire, effectivement le nucléaire n'est pas polluant, sauf s'il y a un accident nucléaire, là on ne peut pas dire que ça ne soit pas polluant, mais... ce qu'il faut dire, c'est simplement que c'est pas l'éolien qui peut remplacer le nucléaire. Donc le nucléaire est un problème, mais c'est pas l'éolien qui peut le remplacer. Alors pourquoi est-ce que les hommes politiques ne comprennent pas cela? Il y en a certains, je crois que Valéry Giscard d'Estaing, mais bon, qui est un petit peu âgé maintenant et qui n'a plus de responsabilité, est très opposé à l'éolien. Est-ce qu'il y a quelques personnes qui vous écoutent dans les gens qui sont au pouvoir ou qui veulent y revenir?
Ce que je peux dire, c'est que personne n'ose. Vous savez, en France, langue de bois. Et quelque chose d'absolument extraordinaire dans ce domaine. Bon. Et donc, les hommes politiques, d'une manière générale, se sentent gênés dès qu'on les aborde sur ce genre de sujet-là. Et ils disent, donc personne, il n'y a pas eu, en fait, Giscard, il faut quand même le dire, est un des rares chefs d'État qui a pris des responsabilités claires et nettes. Et si on n'avait pas créé un parc nucléaire dans ces années-là, dans les années 70, comment est-ce qu'on ferait pour faire tourner l'économie française?
Oui, c'est un vrai problème. Ce que je veux dire, c'est que le nucléaire, qu'on soit pour ou contre, l'éolien ne peut pas remplacer le nucléaire.
Exactement. Donc, de toute façon, nous pensons qu'il y a des investissements très lourds qui ont été faits. ITER est un, comme vous savez, c'est une opération d'ailleurs mondiale qui est installée dans le sud-est de la France, avec une recherche qui implique des sommes considérables, mais internationales, parce qu'on pense que dans le domaine de la fusion, il y a des choses à terme qui seront très prometteuses. Donc c'est plutôt des choses comme ça qui sont importantes. Donc je pense que... Alors sur le plan du programme politique, c'est vrai, aucun gouvernement n'a, même au cours de la législature d'avant, c'est-à-dire que du temps du quinquennat de Nicolas Sarkozy, le Grenelle de l'environnement a sanctifié des objectifs absurdes. Et donc, que ce soit la droite ou la gauche, on s'est complètement trompé, à mon avis, dans ce domaine. Et il faudra bien qu'il y ait une remise à l'ordre des pendules un de ces quatre matins.
Alors, disons un mot maintenant de ce que vous y avez fait.
Je voudrais quand même signaler un autre aspect, quand même, que je n'ai pas évoqué, mais qui est quand même fort de café. Il y a des sociétés d'éolien qui n'ont aucun scrupule. Encore une fois, on aurait le respect d'un environnement, de paysage. Quand on a parlé tout à l'heure des schémas régionaux de l'éolien, ils ont été précédés par des schémas climat-énergie qui ont fait la cartographie française des paysages en particulier et des monuments. Eh bien, il suffit de respecter déjà ces règles-là qui ont été fournies par les administrations. On s'assoit dessus. C'est incroyable. Alors, vous avez devant la cathédrale de Coutances des éoliennes de 180 mètres de haut. C'est quand même insensé. Il n'y a pas que le Mont-Saint-Michel et Arc-et-Senans. Oui. C'est quand même fou. Et ça, je ne comprends pas qu'on n'arrive pas à au moins avoir une certaine rigueur dans ce domaine.
Même si on pense, comme je le pense et comme vous le pensez, que les éoliennes ne sont pas une solution, on aurait pu, effectivement, il y a des endroits où on peut mettre des éoliennes sans qu'elles se voient, sans qu'elles soient gênantes, sans qu'elles soient... Mais personne ne se préoccupe, en général, de la division de loin et des bâtiments.
Et d'ailleurs, au plan local, c'est un vrai problème. La division entre les DRAC et les DREAL, c'est-à-dire l'administration de la culture et l'administration de l'environnement, ne fonctionne pas tout à fait de façon correcte. Hein, parce que, manifestement, il peut y avoir des analyses qui sont faites en commun, mais ce sont les DREAL, donc l'environnement, qui poussent les préfets comme des malades, dans certains endroits, à faire des éoliennes dans tous les coins. Ce qui ne devrait pas être leur rôle.
Alors parlons maintenant d'une loi... On a parlé de la loi de transition énergie très rapidement, donc on reviendra dessus, parce que je pense que c'est quelque chose de grave qui menace le patrimoine dans sa globalité, mais comme les associations ont fait déposer un amendement qui est tout à fait raisonnable, on peut espérer qu'on échappera à cela. Il y a une autre loi qui est en préparation, la loi patrimoine, dont j'ai déjà évoqué un peu le contenu sur le site, qui met un temps fou à arriver, puisque normalement ça devait être pour le centenaire de la loi, de la première loi de 1913. Ça sera peut-être l'année prochaine, on n'en est pas sûr. Où en est cette loi? Dedans, quelles sont, à votre avis, les bonnes choses et les mauvaises choses? Parce qu'il y a, moi, ce que je trouve dangereux, c'est qu'on veut tout revoir et qu'on va soumettre ça aux députés et qu'on sait que les députés, souvent, ils sont là pour un peu amender dans un sens qui n'est pas toujours positif les lois patrimoniales.
Alors, il y a plusieurs choses qui ont été évoquées dans les prémices de cette loi. La première chose, c'était évidemment, il y a d'abord un texte de loi qui avait été évoqué dans le domaine de la protection UNESCO. Bon. La protection UNESCO, comme vous savez, donc il y a à peu près une petite quarantaine de sites en France qui sont patrimoine mondial de l'UNESCO. Et donc, il n'y a aucune transcription en droit français de cette qualification patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, un certain nombre de bons esprits au Sénat, dont Ambroise Dupont, qui a quitté maintenant le Sénat, avait imaginé un texte et ça a été repris à plusieurs reprises. Bon, donc, ça, c'est une première chose. La seconde chose, c'est que, comme vous savez aussi, après la loi de 1913, il y a eu toute une série de secteurs qui ont été définis, donc un zonage, en général plutôt urbain, qui a été défini avec moult détails, les secteurs sauvegardés, les ZPPAUP, les zones de protection du patrimoine.
Sous Jack Lang, ça a été créé, les ZPPAUP.
Absolument, exactement. Et plus récemment, la remise en cause du rôle des architectes du bâtiment de France et de la vie conforme, eh bien, a conduit à une certaine altération des ZPPAUP qui a donné les AVAP, c'est-à-dire les AR de valorisation du patrimoine. Bon, bref, donc tout ça c'est un maquis réglementaire et donc là pour le coup, le souci de l'administration qui avait un seuil redoutable qui était qu'au bout de 5 ans, toutes les ZPPAUP devaient être passées en AVAP, s'est dit pour pouvoir en sortir, il faut qu'on crée une classe, une catégorie unique et donc l'objectif central de la loi est bien de fusionner toutes ces zones, entre guillemets, en une seule zone qui, dans le terme assez malheureux d'ailleurs, de cité historique a été pour l'instant retenu dans la proposition, dans le projet. Bon. Ce que nous avons personnellement regretté dans cette loi, ce sont deux choses. C'est d'abord qu'on a été très méfiant sur la question des abords. Il faut bien voir qu'une des originalités de la législation française, c'est que autour de chaque monument protégé, la loi, une loi de 42 ou 43, je ne sais plus maintenant, a défini une zone de protection complémentaire de 500 mètres qui a été plus ou moins adaptée selon des textes ultérieurs. Bon. Et ça, c'est très important. Il n'y a pas beaucoup de pays qui aient ce dispositif. Et donc, nous étions très inquiets. Et il faut savoir que quand il y a une zone, un secteur sauvegardé, par exemple, ou une ZPPAUP, ça devient l'air est unique et la protection de la zone se substitue aux 500 mètres. Donc, quand on fusionne tout, on se dit que va-t-il rester ? Quelle va être la protection des abords ? Donc ça, c'est un point sur lequel on a attiré l'attention du ministère et lui-même a été sensible, d'ailleurs, à cet argument. Le deuxième problème, c'est que on parle de cités historiques. Ces cités historiques visent plutôt des zones urbaines. Et tout ce qui touche au patrimoine rural, au petit patrimoine, d'une certaine façon, est oublié. Il faut bien voir que les cités historiques, potentiellement, concernent à peu près 20% du territoire et que donc sont complètement exclus de la loi patrimoine, finalement, tout ce qui reste, c'est-à-dire 80% du territoire. Et là, nous entrons dans un autre type de problématique qui est quid du petit patrimoine. Alors, il faut savoir que c'est une question qui est posée depuis longtemps, que la Fondation du patrimoine a été créée justement pour essayer d'apporter une solution pour ce qu'on appelait le patrimoine non protégé. Mais nous avons découvert quand même que nos voisins allemands ont, eux, procédé de façon très différente. Ils ont décidé de faire que l'inventaire du patrimoine se fasse dans tous les lenders allemands, c'est-à-dire les régions allemandes, qui soient menés de bas en haut, c'est-à-dire que ce soit les collectivités qui soient en particulier concernées par cet inventaire, qui a mis à peu près une vingtaine d'années à être fait de façon systématique et qui a conduit à une protection. On a lié l'inventaire et la protection, ce que Malraux n'a pas du tout fait à l'époque. C'était juste la connaissance, l'inventaire, mais pas du tout la protection. Et donc en Allemagne, figurez-vous qu'aujourd'hui, il y a, et on se pince pour le croire, il y a 1 300 000 bâtiments qui sont aujourd'hui protégés. Alors qu'en France, il y a 40 000 monuments historiques au titre de la loi de 1913, peut-être qu'il y en a 100 ou 200 000 si on ajoute les fameuses zones dont je vous parlais tout à l'heure, mais on est loin, loin des chiffres de l'Allemagne. Et il faut savoir que c'est un enjeu, ce petit patrimoine absolument majeur. Par exemple, dans une région comme l'Île-de-France, où un inventaire a été fait globalement, eh bien, il faut savoir qu'en 30 ans, à peu près, 30% du patrimoine qui avait été recensé a déjà disparu. Donc le petit patrimoine n'est pas protégé, il disparaît. Et donc je pense que notre dispositif en France a une énorme faille que la loi de 1913, que le projet de loi sur le patrimoine ne comble absolument pas. Donc on est vraiment avec un gros souci. Il faut d'ailleurs signaler qu'une autre loi sur la biodiversité a mis en roue libre, en quelque sorte, les sites inscrits. Vous savez qu'on a aussi des protections de sites. Eh bien, on a dit, il y a 4500 sites inscrits, on a dit, ça n'a plus d'intérêt, on va les mettre à la sortie, en quelque sorte, les meilleurs, les transformer en sites classés. Mais moi, je pense que là aussi, c'est une grave erreur, parce qu'on est encore une fois en train de réduire les protections sur des plus petits patrimoines, mais notre pays est fait d'une multitude de patrimoines. Et c'est cette diversité qui fait sa richesse. Donc je crois que ça, c'est un travers très redoutable qu'il nous faut combattre. Je pense qu'il faut absolument lier l'inventaire et la protection du petit patrimoine. Il faudra falloir qu'on crée quelque chose, il faut qu'il y ait une démarche très nouvelle qui soit faite dans ce domaine. Voilà, c'est ça. Et je pense qu'on doit s'appuyer sur les collectivités locales, sur les communautés de communes, qui vont être la cellule de base désormais. Il faut que ce soit les communautés de communes qui soient en charge, avec les services des collectivités ou de l'État, de ce travail, en vue d'une protection simple, une protection simple.
Alors concluons sur les vieilles maisons françaises. On peut s'abonner, tout le monde peut s'abonner, on peut adhérer, tout le monde peut adhérer. Ça vaut combien l'adhésion ?
Alors l'adhésion, elle est à 45 euros et vous avez un abonnement aussi qui est important. Donc si vous voulez, la revue, j'ai pas du tout parlé de la revue, mais nous avons une revue qui est très importante, qui est quand même tirée à 20 000 exemplaires. Cette revue est diffusée dans les kiosques d'ailleurs, mais elle est surtout diffusée par abonnement. Et donc, la plupart de nos adhérents sont eux-mêmes abonnés. Nous avons des abonnés qui ne sont pas adhérents. Et c'est très important, cette revue, parce qu'elle est quand même une sorte de revue de référence sur le patrimoine en France. Donc, il n'y a plus beaucoup de revues qui font ce travail-là. Elle est très, très illustrée, mais elle est aussi très documentée par des très bons auteurs. Et donc, je crois que ça, c'est très important qu'on ait cet instrument de connaissance. Le principe de cette revue, c'est qu'elle a une étude d'une quarantaine de pages sur un département, et puis qu'elle a un certain nombre de zooms sur des monuments spécifiques ou sur des lieux particuliers. Et puis, il y a toute une partie débat qui est importante. Donc aujourd'hui, ben voilà, donc ce qu'il faut, c'est, à mon avis, ce que j'adjure, si je puis dire, les auditeurs, hein, de venir sur le site d'abord des VMF, hein, c'est VMF Patrimoine, le site, et puis de nous rejoindre, parce que c'est très important qu'on fasse masse. Nous sommes la plus importante au niveau taille des associations nationales, et on a besoin de cette masse dans les combats, on le voit bien. Chaque fois qu'on se met en force sur un combat, eh bien, le fait d'être nombreux, c'est important.
Merci beaucoup Philippe Toussaint. Nous nous retrouvons donc la semaine prochaine pour une nouvelle émission de la Semaine de l'Art. Merci.